France Culture.
La distance ne compte pas, ce qui compte c'est ce qui se passe dans sa tête, c'est le fait de prendre la décision et de passer à l'acte, alors que bon, bah, c'est évident que on a tous à un moment ou à un autre, ce n'est pas une question ni de classe sociale, ni de sexe, je veux dire, aussi bien un homme, aussi bien dans d'autres milieux, on pourrait penser qu'on a tous envie de décrocher à un moment, et elle le fait. Elle part et puis la distance n'a pas d'importance.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Parmi les 344 livres écrits en français et qui paraissent dans cette rentrée littéraire, 73 sont des premiers romans. Deux primo-romancières aujourd'hui donc dans votre book club et un motif littéraire commun, des femmes qui s'en vont. Passent les clôtures, quittent les maisons, muettes ou en désordre, tuent l'ange du foyer, partent car partir est une raison suffisante, se font poursuivre par des vaches, déclenchent des disparitions inquiétantes, quitte à ne plus se reconnaître dans le miroir au-dessus du lavabo. C'était il y a des dizaines d'années, mais c'était hier tout aussi bien. Un motif commun et deux premiers romans réjouissants par les formes qu'ils inventent. Comme nous sommes heureux et heureux de recevoir Reine Bélivier et Louise Rose pour parler de leurs livres respectifs, La Hideuse et Les Projectiles. Ensuite, et comme chaque mardi, on a rendez-vous avec Mathilde Wagman. Elle nous parle des petits livres pour tout petits. Ça s'appelle Les Crocus. Elle nous emmènera aussi en festival qui s'appelle Gribouilly à Bordeaux. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Bonjour Louise Rose.
Bonjour.
Votre livre s'appelle Les Projectiles, il a paru aux éditions POL. Soyez la bienvenue dans le Book Club de France Culture.
Merci beaucoup.
Et bonjour Reine Bélivier.
Bonjour.
Votre livre s'appelle La Hideuse, il a paru aux éditions Bourgois. Et c'est votre premier roman, bienvenue à vous aussi dans le Book Club de France Culture.
Merci.
Ici, tout commence par ce qu'on appelle un grand questionnaire lecture. L'idée, c'est de faire connaissance avec nos invités en s'interrogeant sur les livres qu'ils ou elles ont trouvés sur leur chemin. Ça nous paraît être un bon moyen. À la fin de votre roman, Reine Bélivier, dans les remerciements, vous remerciez des personnes qui vous ont appris que écrire et lire, c'était pareil. Et en effet, on y viendra tout à l'heure, il y a quelque chose dans la prose romanesque de votre texte qui se tissent véritablement des lectures faites au fur et à mesure, donc de la narratrice ou de l'autrice, peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui avance ensemble. Ça, vous l'avez appris quand et comment ?
Je pense que je l'ai appris à l'université, un peu tardivement par rapport à certains parcours de lecteurs qui commencent tout petit. Petit, je lisais des bandes dessinées, je lisais Picsou Magazine, Astérix, voilà. J'étais pas une grande lectrice de romans dans l'enfance. Ça s'est fait petit à petit et je pense que les histoires qu'on me racontait ont beaucoup compté dans le rapport au récit. Et en grandissant, j'ai découvert la littérature.
Qu'on vous lisait ou plutôt des récits oraux ?
Les deux. Des histoires qu'on me lisait. Ma mère a toujours fait l'effort de nous lire des histoires avant de dormir, qui étaient adaptées à notre âge, des contes, voilà. Et les histoires de famille. Qu'on retrouve évidemment d'une façon ou d'une autre dans ce roman-là, même si c'est pas le sujet n'est pas ma famille, mais il y a quand même des échos de ça.
En tout cas, on y viendra aussi à des échos de tendre l'oreille, à des on-dit, à des versions de l'histoire qui sont une façon de travailler la littérature. Les extraits de textes que nous trouvons, j'y reviendrai aussi pour comme relancer la machine romanesque au début des mouvements dans votre livre. Ça reflète votre bibliothèque, ça reflète des lectures que vous avez pu faire, vous ?
Oui, ça reflète ma bibliothèque et ça reflète la bibliothèque que j'ai constituée au moment de l'écriture de façon... consciente et instinctive, un peu des deux. Il y a quelque chose un peu d'irrationnel. J'ai pas trop d'explications pour certaines attirances. En tout cas, j'avais envie de former une constellation autour de moi au moment de l'écriture. Et ce que vous disiez par rapport au fait de relancer la machine romanesque, ça, vraiment, moi, ça me relançait dans l'écriture. Je me mettais le pied à l'étrier.
Oui, et puis c'est comme ça aussi qu'on le vit à la lecture, c'est qu'il y a un mouvement qui se relance par une citation. Et on va trouver aussi bien Tsvetaeva que Camus, que Virginia Woolf, ou que des essais un peu plus anthropologiques ou ethnographiques. Ça, c'est quelque chose qui s'est construit, une bibliothèque spécialement bâtie autour de l'écriture de votre livre, Reine Bélivier ?
Pas uniquement, parce que ce livre-là, je l'ai maturé, on va dire, pendant très longtemps, pendant 20 ans quasiment. Donc, le projet d'écriture vient trouver son origine avec le début de mes études littéraires, et donc je pense que tout se mélange, et que les lectures fondatrices, au moment où je suis entrée en littérature en tant que lectrice, par des professeurs d'université, m'ont marqué et ont marqué le projet d'écriture, c'est sûr.
Si vous deviez décrire, Louise Rose, le rapport que vous avez avec les livres des autres et la place qu'occupe la lecture dans votre vie, vous diriez quoi ?
Je dirais que c'est un rapport qui est assez, inconstant, parce qu'il y a des moments où je lis de manière assez... justement très constante, c'est-à-dire que j'ai une habitude liée à ça qui va démarrer dès le matin, où je vais me réserver une bonne heure pour lire,
consacrée à ça méthodiquement.
C'est ça, ouais. Mais seulement quand je suis chez moi en période de repos et que je ne travaille pas, alors que dans les périodes où je vais énormément travailler, je vais prendre un livre ou deux dans mon sac, mais je sais très bien que je ne vais pas les ouvrir.
Comment ils sont choisis, ces livres que vous mettez dans votre sac à dos ?
Ils sont choisis dans le sens où ils sont sur ma pile de livres à lire. Et j'ai un peu une particularité qui est aussi un peu inconstante, c'est que des fois j'arrive à lire un livre, puis l'autre, à terminer un livre, et d'autres fois, comme en ce moment, il y a...
Plein de livres en même temps.
Il y a quatre livres en même temps, quoi. Et c'est chouette, mais...
Vous le dites en soupirant, comme si c'était pas facile à lire, cette affaire.
C'est pas facile d'aller d'une histoire à l'autre, et en même temps, des fois, c'est nécessaire. Il y a un autre livre qui apparaît, et l'autre se terminera plus tard, quoi.
Qu'est-ce que vous lisez, les quatre livres, en même temps, en ce moment ?
Alors, ce matin, j'ai terminé un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Je rouille » de Robin Valtine, qui se lit très rapidement, mais qui est très, très prenant. J'ai commencé « Les forces » de Laura Vasquez, que j'ai interrompu en lisant ce livre-là. Et entre-temps, j'avais reçu « Autoportrait à l'encre noire », que pareil, j'ai lu d'une traite. Et avant « Les forces », j'étais dans « Trésor caché » de... Pascal Quignard.
Quignard, c'est un auteur que vous avez en commun, parce qu'en effet, vous mentionnez dans de récents portraits parus dans la presse que vous êtes en train de lire Trésor caché de Pascal Quignard, et puis on trouve des traces de Pascal Quignard aussi dans vos lectures, Reine Bédivier. Qu'est-ce qu'il y a chez cet auteur-là qui pourrait vous être familier, ou puisque vous parlez de constitution comme ça un peu instinctive d'une constellation littéraire autour de vous, ce serait à partir de quoi pour Quignard ?
Pascal Quignard, pour moi, c'est surtout une érudition qui me stupéfait et que je maîtrise, qui m'impressionne, parce que ce n'est pas quelque chose que je maîtrise de cette façon-là. Je ne connais pas toute son œuvre, mais j'aime la façon qu'il a d'aborder, je crois que c'est La barque silencieuse que je cite, mais des fragments qui se tissent entre eux, justement. On ne sait pas trop, quand on referme, exactement, précisément ce qu'on en a tiré, mais il y a un paysage qui s'est constitué. Et c'est cette sorte de paysage-là, un peu brumeux, un peu... Que j'aime et qui me fascine chez Quignard.
Notamment dans toute son grande œuvre qu'il appelle Le Dernier Royaume, et qui sont des textes à visée pas nécessairement théorique, mais où finalement quelque chose de théorique peut se tisser entre des extraits choisis de sa propre bibliothèque. Vous disiez, ça fait 20 ans que je mature ce texte, à peu près, Reine Bélivier, et vous faisiez correspondre quelque chose de votre entrée dans les études littéraires avec la manière comme ça de mûrir un texte. Pour ce qui est de votre texte, Louise Rose, est-ce que c'est aussi un texte... Vous êtes un tout petit peu plus jeune, peut-être ça fait pas 20 ans que vous le préparez, quoique, on ne sait pas.
En fait, on sait pas. J'ai 29 ans, quand même.
Voilà, c'est ça. Qui sait, ça se trouve, à 9 ans, vous étiez en train de le préparer. Est-ce qu'il y avait dans l'enfance un rapport avec la lecture qui était quelque chose d'important pour vous ?
Ouais, parce que c'est quelque chose qui est venu très tôt. En fait, pour la petite histoire, j'ai un an d'écart avec mon frère qui était en CP quand j'étais en maternelle. Et il apprenait à lire à ce moment-là, et je pense que...
Ça donne envie.
Je pense que ça donne envie, et de là, j'ai appris à lire assez tôt, et je pense que je m'ennuyais beaucoup à l'école. Enfin, j'ai des souvenirs où j'étais au fond de la classe et je lisais tous les livres pour enfants dans la boîte en bois, encore une boîte. Et voilà, c'est venu de là. Et je pense qu'une bonne partie de mon enfance, je l'ai passée à lire beaucoup. Ouais.
Mais à lire contre l'ennui ou c'était quelque chose de joyeux pour vous? Les deux peuvent aller de pair d'ailleurs.
Ouais, je pense que c'est un mélange des deux. J'ai pas trop analysé ce truc-là. Je pense que c'était une activité comme je pouvais dessiner ou jouer dehors ou me promener. Enfin.
Est-ce que vous le liez vous aussi comme Reine Bellivier à l'écriture ou ce sont deux territoires très distincts dans votre parcours?
Je pense que l'écriture elle est venue bien plus tard. À mon avis, je suis d'abord passée par le dessin beaucoup. Je me souviens que je dessinais énormément et j'ai fait après le lycée un parcours aux Beaux-Arts où j'ai continué de dessiner, mais où on a eu des ateliers d'écriture, notamment avec un auteur qui s'appelle Emmanuel Loi et qui sortait de prison ou qui avait fait de la prison et il nous a fait un workshop pendant 3-4 jours et c'était vraiment très libre comme forme et je pense que c'est de là que ça a ouvert quelque chose et après je devais écrire un mémoire, enfin c'est vraiment venu plus dans le parcours universitaire, si on peut dire ça comme ça.
Ça fait une hésitation à le qualifier comme tel.
C'est les Beaux-Arts quoi, donc je trouve que c'est plus une formation justement personnelle où on est amené à découvrir ce qu'on aime vraiment faire plus que quelque chose avec des cours. Bon, il y a des cours très cadrés d'histoire de l'art et tout, mais j'ai pas forcément très bien écouté.
Reine Bellivier mentionnait une sorte de constellation littéraire autour de son texte. Est-ce qu'il y aurait une constellation littéraire autour de votre roman, Louise Rose?
Je pense que oui.
Qui on peut trouver là-dedans comme étoile?
Qui on peut trouver là-dedans? Alors là, quand j'y pense, je me souviens plus de son nom. Mais c'est un chercheur qui a écrit « Un an dans la vie d'une forêt ». Et pendant un an, il définit un cercle. Et chaque jour, il va voir ce cercle qui est dans la forêt, qui fait 1 mètre de diamètre. Et il décrit ce qu'il observe en termes de changements, la vie des insectes, comment les feuilles se décomposent, les reflets de l'eau. Voilà, exactement.
Il y a quelque chose qui correspond dans ce texte-là, par exemple, à la puissance d'observation que vous mettez en place dans votre narration, à l'attention au plus petit de notre environnement, aux détails. Ce serait ça le pont qu'on pourrait faire entre votre roman et ouais. Ce livre de David Ascal?
Ouais, je pense dans le sens où il y a vraiment une observation presque scientifique des choses et qui permettent justement de créer des images plus ou moins poétiques, de porter une attention aux petites choses en fait qui paraissent complètement infimes. Enfin, il y a ce côté qui va un peu dans l'infraordinaire aussi, dans le fait d'observer des choses du quotidien qui sont complètement banales et en fait je sais pas, dans la vie, il y a plein de chaises en plastique partout dans les jardins et en fait elles disent beaucoup de choses sur nous, sur nos habitudes, sur ce qu'on aime.
Comme il y a observer. Plein de petites cuillères différentes.
Voilà.
Auxquelles sont très attentives votre narratrice. On va parler de vos deux livres, ces deux premiers romans, juste après cette chanson d'Alain Bachung. Comme dans vos livres, c'est quelqu'un qui part au petit matin après une nuit d'amour. Bijoux. Deux chansons qui s'appellent Bijou, qui est sorti en 1979 sur un album qui lui s'appelle Roulette Russe. Te réveille pas surtout, je vais pas faire de bruit, juste un café c'est tout, je peux plus rester ici, je dormirai je sais pas où.
Bijou, bijou, te réveille pas surtout, je vais pas faire de bruit, juste un café, c'est tout. Je peux plus rester ici, je dormirai, je sais pas où. Oh, oh. Bijou, bijou, le temps ça pourrit tout. Les cheveux dans le lavabo, les mégots écrasés n'importe où. Puis tu prends ton bain avec de drôles de joujoux. Oh, bijoux, bijoux. Y a des feux rouges partout. Et puis au coin de la rue, l'armée du salut qui joue. À ma montre, y'a pas de chaîne. À mes cols de chemise, pas de baleine. Bijoux, bijoux, pense à tes rendez-vous. Rappeler le gynéco, passer à la banque, prendre des sous. Trouver quelqu'un d'autre, moi je mets les bouts.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
C'est insensé ce qu'elle est en train de faire. Une mère ne part pas, pourtant elle part. Et par moments ça lui paraît complètement naturel, la plupart du temps même. C'est la seule chose à faire pour elle. Elle est une femme qui s'enfuit avec une valise à la main. C'est un extrait de votre premier roman, Reine Bellivier, La Hideuse, paru aux éditions Bourgois, dans lequel une narratrice imagine la fuite du domicile conjugal par sa mère à la fin des années 50. Chaque chapitre, on l'a dit, ou chaque mouvement étant relancé par une citation d'une lecture en cours et en résonance. Et sur la quatrième de couverture de votre premier roman, Louise Rose, ces fameuses quatrièmes qu'on adore de chez POL, le livre s'appelle Les Projectiles, il est écrit cela. Bébé part pour de bon, bébé c'est votre narratrice, sans billets ni excuses à fournir, partir c'est déjà une raison. Elle dira, si on la contrôle, elle dira ça, qu'elle devait partir absolument, c'est la vérité, mais ça ne suffit pas. Ici c'est une forme de compte à rebours pour une fuite, idem, maison et compagnon, fuite en caméra presque intérieure, embarquée dans une langue très à elle, vers des vestiges enterrés au jardin. Deux premiers romans au programme de votre book club cet après-midi, deux femmes qui s'arrachent, peut-être pour tenter de mieux respirer. On a décidé de travailler ce motif commun en faisant entendre deux extraits, successivement pardon, de vos deux textes.
Le départ, première version. Je vais te dire comment que ça s'est passé. Lui, le premier, c'était un brave homme qui ne buvait pas. Seulement elle, c'était une coureuse. Un jour, elle est partie. Elle avait porté les gamins je sais pas où, abandonnés. Le mari était rentré le soir, il n'y avait plus personne. Et c'est la grand-mère qui les avait élevés. Elle, elle était partie rejoindre l'autre. Georges, il s'appelait. Un marin, à ce qui paraît. Elle l'a rejoint en Espagne, à Barcelone ou un truc comme ça. Elle a tout fait le voyage jusque là-bas, avant qu'il reparte en bateau, juste pour y dire qu'elle avait tout quitté. Reine Bellivier, la hideuse. Time to fly, time to fly, time to fly. Dans sa tête, ça parle anglais. Ça lui donne du courage venu d'ailleurs, une forme de style. Bébé devient une héroïne de thriller. Hey ho, let's go like Chiquita. Climb this fucking clôture. Elle ne sait pas comment on dit clôture en anglais, ni barrière et encore moins palissade. Elle lève les bras en l'air, parvient à agripper le bord de la clôture, pose un pied puis l'autre contre le panneau. Ses semelles queen, ça fait un bruit insupportable, son corps prend la forme d'un angle obtus. Les bobos se réveillent tous en même temps, la sieste est finie. Bébé les ignore, parvient à se hisser et passe une première jambe. Adada sur l'arête, elle hésite à passer la deuxième. À y aller, pas y aller, c'est le vertige de la pelouse, ça lui scie les adducteurs. Si ça continue, elle va finir coupée en deux et sans nombril. Il y aura une jambe, une fesse, un ovaire, un rein, un sein, un poumon, un bras, un œil et 16 dents de chaque côté de cette clôture de merde et elle finira dévorée par des fourmis et des chats de gouttière. La seule chose à faire, c'est faire hop. Louise Rose, Les Projectiles.
«
Alors, on l'entend dans les deux extraits lus par Mathilde Wagman. Ce sont deux textes absolument différents, singuliers, avec des constructions et des langues différentes, mais qui travaillent quand même un motif commun qui serait une femme qui part, une femme qui passe la clôture, une femme qui s'arrache, presque un corps qui part comme ça dans le mouvement. Est-ce que vous sauriez dire, Louise Rose, puisque l'idée c'est de commencer en imaginant que ça peut être un motif littéraire, aussi d'ailleurs pour vous dire que nous, comme ça au Book Club, c'est un motif qu'on voit beaucoup apparaître ces temps-ci. Il y a quelque chose d'une femme qui part, une mère qui part, une ouvrière qui part avec la reparution du voyage à Paimpol. Comment c'est arrivé ce motif-là, ce mouvement-là, et qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans?
Bah, comment c'est arrivé, c'est assez marrant parce que ce motif de femme qui part, il est venu assez rapidement. Mais ce premier chapitre, qui est le 16e chapitre, n'a pas été le premier à être écrit. Et je pense qu'il y a une question de décision, quelque part. Je saurais pas...
Ce qui vous intéresse dans le mouvement de la femme qui part, c'est la femme qui choisit, c'est la femme qui décide.
Ouais, mais je pense que cette décision, elle est très difficile à prendre, elle est très difficile à assumer. Je pense qu'elle est équivalente à ce que ressent bébé quand elle doit choisir de sauter du haut de cette clôture ou pas. Et l'écriture de ce premier chapitre m'a donné énormément de temps. C'est un début d'histoire que j'ai mis mais énormément de temps à écrire, que j'ai réécrit.
Et vous pensez que ça a à voir ce travail laborieux, ouais, avec la difficulté de franchir la clôture, qui est comme une sorte de miroir entre le travail d'écriture?
J'étais en train d'y penser justement quand vous lisiez cet extrait, et je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a cette question de la décision qui est c'est ça le point central en fait dans l'idée du départ. C'est à quel moment on choisit de partir sans se retourner? Est-ce qu'on va vraiment réussir à pas se retourner? Cette question-là, elle est là pendant tout le long du roman, même dans les 100 pas que bébé fait enfant pour aller enterrer cette boîte. Il faut pas qu'elle se retourne, quoi. Il y a un peu un truc de... ça me fait penser à... au mythe d'Orphée qui va chercher Eurydice avec la porte des enfers, et il doit faire cette centaine de pas sans se retourner, quoi. Il y a quelque chose d'un peu mystique, enfin je sais pas si c'est le bon mot,
mais même dans l'écriture de ce premier chapitre, qui est donc peut-être pas arrivé premier dans votre écriture à vous, mais qui est quand même l'endroit par lequel nous rentrons dans votre roman, la description si précise et si minutieuse, quasi organique, de la manière dont le corps doit dépasser la clôture, on sent bien que en effet il y a un franchissement qui n'est pas que le franchissement de la clôture, mais bien un nouveau chapitre pour la nouvelle vie, quoi, bébé. Avec, je dois le dire aussi, moi, le trouble qui a été insinué par le choix que vous faites du nom que vous donnez à votre narratrice, ce bébé. Parce que moi, n'ayant rien lu, comme d'hab, avant de me lancer, je voyais aussi un corps de bébé. C'est-à-dire que je voyais un corps de bébé avec ses empêchements, avec la façon dont c'est difficile pour un bébé de se mouvoir et de franchir une clôture. Enfin, il y avait quelque chose comme ça qui me paraissait aussi monumental. Je voyais un corps de bébé et une très très grande clôture, et ça augmentait la difficulté de ce franchissement. Peut-être un mot, Louise Rose, sur ce choix-là du prénom ou du nickname ou du surnom de bébé. Parce que ça induit quelque chose, forcément.
Ouais. Bah, ça induit quelque chose. En fait, ça a plusieurs sens. Parce que il y a déjà cette question du retour à l'enfance, où voilà, bébé retourne vers sa boîte, retourne dans ses souvenirs et retourne dans ce jardin où elle a joué quand elle était enfant. Il y avait aussi la question de pas trop m'attacher à ce personnage, donc de lui donner un prénom qui est un surnom. Mais moi-même, je sais pas. En vérité, si c'est vraiment un diminutif, si ça se trouve, elle s'appelle Bérénice ou Bénédicte.
Peut-être elle s'appelle Bébé.
C'est rien du tout, quoi. Si ça se trouve, elle a un prénom qui est complètement autre, et c'est juste Bébé. C'est son petit ami Boris qui la surnomme comme ça tout le temps. Comme dans la vie, tout le monde s'appelle Bébé. Entre amis, entre amoureux, c'est toujours Bébé, merci Bébé. C'est très commun, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment d'identification possible. Et moi, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je me permets aussi de, bah de, comment dire, de la mettre dans des situations où elle est en train de devenir folle, elle est complètement sous-alimentée, elle s'empoisonne avec l'eau de la fontaine du village, elle dort dehors, elle tombe à vélo. Enfin, c'est un espèce de pantin pas très joyeux, mais qui est très, comment dire, très solide.
Et c'est pas la moindre des qualités. Reine Bellivier, dans ce motif d'une femme qui part, donc il est travaillé différemment dans votre roman. C'est une femme qui enquête sur une femme qui est partie, sa mère. Comment est-ce que c'est arrivé et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette image que vous travaillez là aussi tout au long du roman?
Ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'explorer, même peut-être au-delà du fait que ce soit une mère de famille, enfin, même si tout ça est effectivement un pan très important de cette histoire malgré tout. Hein. Mais je crois que le point de départ, c'était une histoire d'autodétermination.
Vous aussi, ouais.
Ouais, une histoire c'est vraiment d'empowerment. La décision, ouais. De comment on s'empare de, on essaye de s'emparer de son destin et de lutter contre des déterminismes, coûte que coûte, et ça coûte cher pour Marguerite, mais elle tient sa ligne et elle va jusqu'au bout. C'est sauvage, c'est dur pour elle, elle le paye de sa santé mentale d'une certaine façon, mais c'est cette détermination qui va ouvrir la voie aussi pour la génération qui suit. Ça m'intéressait d'explorer ça.
C'est étonnant parce que l'une et l'autre, quand je vous pose la question de la femme qui part, vous en revenez pas au mouvement et à la fuite, mais au départ et à la décision. Comme s'il y avait vraiment quelque chose qui se cristallisait sur l'arrachement que vous pouvez regarder à la loupe du moment où, entre rester et partir, on choisit partir.
Oui, c'est ça. C'était vraiment, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs versions du départ dans le roman. D'accord. J'avais envie de regarder cet instant-là. C'est le plus insaisissable, finalement, pour la narratrice et pour tout le monde, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui s'en va? Et on enquête sur de l'insaisissable dans cette histoire. Donc, essayer de, ce que disait Louise tout à l'heure, de regarder des tout petits instants, des toutes petites choses où il se passe de l'infiniment grand, en fait. C'est ça que j'avais envie d'explorer en multipliant les versions possibles du départ pour essayer de s'approcher le plus possible de ce que pouvait être la vérité de ce départ-là.
D'ailleurs, en effet, donc on a lu et entendu dans la voix de Mathilde Wagman une première version du départ. Elle est en italique dans votre texte et elle prend aussi les atours d'un on-dit, parce qu'évidemment, une femme qui part, vous n'avez pas prononcé ce mot-là, mais dans les deux cas, c'est inadmissible. C'est-à-dire que ce soit dans les années 50 ou que ce soit dans une version plus contemporaine, c'est pas daté votre texte, Louise Rose, mais on est moins du côté des années 50 que du côté des années 2000, quoique. En tout cas, il y a quelque chose qui déroge à la règle, qui déroge à la norme, qui presque pas regardable, presque pas admissible. Et donc, ça crée des façons de le raconter, éventuellement dans un journal, ou on imagine dans une voix, Reine Bellivier, ces passages en italique, ce serait ce que l'on aurait pu dire ou ce que l'on aurait pu entendre du départ de votre narratrice.
Oui, exactement.
De la mère de votre narratrice.
Ouais, c'est la voix populaire, les voisines, les voisins, le on dit, le qu'en dira-t-on du village, qui a eu un œil là-dessus et un œil qui juge.
Assassin même.
Exactement. J'avais envie d'entendre ces voix-là parce que c'est tout ce qui reste de cette histoire, finalement. La narratrice ne peut s'appuyer quasiment que sur ce genre de choses.
Est-ce qu'on dit du départ de sa mère?
Ouais. Exactement.
En l'occurrence, il y a d'autres traces que votre narratrice explore. Un journal que sa mère a écrit sur les premiers jours, les débuts de vie de son propre enfant. Et puis, il y a aussi le texte qu'elle finit par bâtir, qui est comme une réponse au Qu'en dira-t-on, le roman d'un départ autrement écrit. On va entendre la voix de Johan, auditeur du Book Club. Il vous a lu, Louise Rose, et il vous interroge sur la langue et puis sur ce motif de la boîte qui est commun aussi à vos deux romans.
Bonjour le Book Club, bonjour Louise Rose. J'ai lu les projectiles et j'ai adoré. Ce qui m'a tout particulièrement marqué, c'est le style. Il y a une langue qui déborde, qui s'emballe. C'est plein d'argot et de poésie du quotidien et... J'ai vraiment trouvé ça très beau parce qu'il y a quelque chose de particulièrement vrai, de particulièrement réaliste dans la manière dont les pensées de bébé fusent dans tous les sens, un peu comme nous. J'ai trouvé que vous avez réussi à rendre ça presque comme une musique, comme une belle chorégraphie, et j'ai trouvé ça vraiment magnifique à lire. Et évidemment, bon, bah, y a cette fameuse boîte que Bébé cherche qui m'a particulièrement marqué parce que j'ai moi aussi une boîte chez moi. Une boîte avec des objets d'enfance que j'ai pas ouverte depuis longtemps. Je me souviens très vaguement de ce qu'il y a dedans. Et c'est ce qui va amener ma question. Pour vous, Louise, si vous deviez avoir vous aussi une boîte, quels objets vous mettriez dedans et à quels souvenirs ils seraient liés ? Merci pour votre réponse et merci pour votre livre.
Merci Johan pour cette lecture avec des questions dedans et des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Louise Rose, alors peut-être un mot sur la langue qu'on a entendue tout à l'heure dans le premier extrait. Johan y voit quelque chose qui déborde, il voit aussi une façon de s'emparer d'un argot. Il y a des manières de s'emparer de différentes voix, d'un parler anglais. Ça va vite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ?
Bah, je pense que Johan a très bien capté ce qui pouvait se passer dans ma langue. Je pense qu'il y a quelque chose de très environnemental, de très de capter en même temps les bruits d'un oiseau, en même temps les conversations que deux personnes peuvent avoir dans la rue, puis il y en a d'autres qui passent. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment arrêter, ce langage permanent. Et je trouve que c'est très nourrissant et ça peut en dire beaucoup sur un environnement, une époque, sans avoir besoin de dire nous sommes en l'an 1974. En fait, par ces expressions, par l'argot, par des tics de langage, on peut très facilement savoir à peu près où on se situe. Et puis il y a toutes ces voix qu'on entend, alors pas dans nos têtes, mais dans le paysage urbain, qui vont être les voix pour les passages piétons, les voix dans le métro, les publicités insupportables au supermarché. Enfin, il y a quelque chose de très...
Et puis il y a aussi une voix intérieure.
Polluant. Et il y a la voix intérieure,
qui est une voix très 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 dynamique, très très rapide. Il y a aussi quelque chose, une figure parmi les autres qui pourrait planer autour de l'émission d'aujourd'hui, ce serait celle de Virginia Woolf et l'idée d'un flux de conscience, mais un flux de conscience extrêmement contemporain, où parfois on l'entend presque plus penser qu'on ne la voit se déplacer, mais au final c'est les deux en même temps dans votre texte. Comment vous avez travaillé ça?
J'ai travaillé ça de manière assez comme quelque chose qui coule. Je saurais pas trop comment le décrire. Je pense que c'est quelque chose d'assez instinctif. Enfin, j'ai essayé de retraduire moi qu'est-ce que je ressens par exemple quand je me balade et qu'en même temps j'ai des réflexions sur la vie, sur ce qui se passe, et qu'en même temps j'entends des choses. Et en même temps, j'écoute de la musique. Enfin, il y a un truc de triple, voire quadruple, voire, enfin, c'est inquantifiable le nombre de pensées qu'on peut avoir à un moment. Et c'est très difficile de se repérer là-dedans. Et je pense que l'écriture permettait justement de poser des repères sur ce vacarme, quoi.
Un des buts de ce trajet que vous décrivez pour le personnage bébé, c'est de déterrer une boîte. Et que dans cette boîte-là, il y aurait des objets qui pourraient raviver des souvenirs. Voilà, ça c'est une manière assez schématisée de parler du trajet. Mais en tout cas, il y a la présence de la boîte qui est assez importante, qui a beaucoup parlé à Johan, notre auditeur, qui lui en a une lui aussi. Ça sert à quoi d'un point de vue romanesque, cette boîte ?
Cette boîte, justement, elle est faite pour être ouverte. Je pense qu'elle devient une ouverture globale dans le récit, parce que tout part de là et tout va vers là, en fait. Les souvenirs remontent de cette boîte. Cette boîte, elle est pourtant souterraine. Il y a un côté... moi, ça me fait penser au film Jumanji, avec cette boîte sous terre qui cogne. Mm. Et puis ce personnage qui est enfermé dans une jungle depuis des années. Et cette boîte, c'est aussi le cœur de bébé qu'elle entend aussi... faire des boum boum, enfin, il y a des boîtes partout, quoi.
Et c'est son enfance, et c'est le passé, et c'est la mémoire.
Oui, il y a plein de sens très différents qui sont associés à cette boîte, et au final, cette boîte, elle est l'élément central du livre, mais pas tant que ça, parce que tout ce qu'elle contient vient rythmer toute cette quête, quoi.
Il y a une boîte aussi dans votre livre, Reine Bélévier, et une question, on a peu parlé des questions, mais c'est vrai qu'une partie du texte commence en posant beaucoup de questions. Où es-tu? Pourquoi l'épouses-tu? Le premier notamment. Qu'est-ce qui a guidé ton chemin silencieux? Et cette question très belle, qui parlera pour moi quand ma fille fera le tri dans ma maison vide? En effet, il y a l'idée qu'il y a une fille qui ouvre une boîte, que dans cette boîte, il y a les traces d'une vie passée. Sachant que vous commencez votre texte en nous rappelant combien les traces des vies des femmes sont petites et minces à lire. Même question pour vous, quel rôle joue, mais dans la construction romanesque, cette boîte, Reine Bélévier?
J'avais besoin que la narratrice puisse quand même se raccrocher à des petites choses. Mais c'est ce qui est intéressant dans le lien entre nos deux romans avec Louise. Il y a quelque chose d'archéologique un peu dans le fait d'aller creuser pour trouver ça.
D'ailleurs, vous dites travailler en préhistorienne.
Voilà, c'est ouais. Ça. Et elle travaille, ma narratrice travaille en préhistorienne parce que les traces préhistoriques sont ténues et encore plus celles des femmes préhistoriques. C'est des questions, je pense, qui émergent maintenant. Sur l'histoire aussi de cette partie de l'humanité. Mais comment on fait l'archéologie de choses qui ont disparu? Et un destin comme celui de Marguerite, la mère de la narratrice, c'est un destin très modeste. Et en plus, celui d'une femme, donc vraiment, il n'en reste rien. Il n'y a pas d'écriture, il y a peu de photos, voilà. Cette boîte, elle contient trois fois rien. On aurait presque pu s'en passer, finalement, les quelques images qui sont des supports pour l'imaginaire, essentiellement, et quelques mots qui sont posés sur une feuille. Mais l'idée, c'est comment on fait, effectivement, l'archéologie de vies qui ont disparu et qui sont pourtant la majorité des vies humaines. Voilà, se pencher sur ces choses-là et qui ont des valeurs en soi. Et c'est pour ça aussi, on parlait tout à l'heure des fourmis dans la lecture des projectiles. Des fourmis et
des choses qu'on peut regarder presque au microscope.
Des toutes petites choses. Et j'avais envie de me pencher sur ces petites choses-là, oui, qui sont... Qui vivent des instants, qui ont une valeur autant que les autres, finalement.
Et alors, je parlais de la manière dont les citations relancent le mouvement de votre texte, Reine Bélévier. Il y a aussi la force des questions. Une partie du texte est adressée par la narratrice à sa mère, qui questionne le départ, qui cherche à comprendre, mais qui cherche pas à comprendre en question accusatrice, qui se demande juste, en fait, à quoi ça pouvait ressembler de quitter sa maison à la fin des années 50, quand on est mère, quand on est mariée, quand... ces questions-là, pour vous, c'est une façon de faire quoi du point de vue de l'écriture, de placer votre écriture romanesque à quel endroit?
Je pense que c'est un outil de mentir vrai un peu en mettant à nu le procédé finalement qui est un procédé fictif parce que je ne suis pas la narratrice de ce livre, mais c'est une façon de jouer avec l'illusion de la vérité. En tant qu'écrivaine, d'emmener mon lecteur dans un questionnement qui s'apparente à une vraie enquête et de donner corps à ce personnage de narratrice pour qu'on y croit.
Mais c'est aussi une possibilité de laisser l'autre répondre, c'est-à-dire que la réponse, ce serait éventuellement votre roman, Reine Bélévier, mais ce serait, quand on demande où es-tu, ou à quoi pouvait ressembler ton chemin, ou qu'est-ce que ça pouvait être de se barrer de chez soi, ou quand tu as pris le train pour te rendre, retrouver cet homme peut-être que tu aimais, c'est la possibilité de se dire que il y a eu une décision, que cette femme avait des désirs, qu'elle avait des convictions...
C'est
faire appel à elle.
Voilà, c'est lui donner une voix et c'est déployer le champ des possibles sur les réponses et de broder les trous. En fait, ces questions, elles mettent en valeur les trous qu'il y a dans le récit et finalement.
Qui sont lesquels, par exemple?
Tous les moments qui ne sont pas des marqueurs biographiques. une naissance, une mort, le jour du départ. Finalement, ça, c'est quelques marqueurs qui sont des événements importants. Et c'est tout l'intervalle que j'ai envie d'explorer. C'est tous les trous qui existent dans la biographie. Mais c'est ce que fait la littérature de toute façon, combler des trous. Enfin, c'est ce que le lecteur fait quand il lit un livre, en général.
Et vous allez voir d'ailleurs de ce côté-là du tissu, en appelant un texte qui s'appelle « La trame conjugale » et qui réfléchit à la cohabitation entre le linge et le couple. Vous vous posez aussi des questions de broderie, parce que c'est un geste que fait la mère de la narratrice. Il y a quelque chose, en effet, qui, dans le texte, va broder là où personne n'a rien dit, où cette femme n'a pas pu dire des choses de son propre départ. On écoute un extrait de votre livre « La hideuse ».
J'ignore pourquoi on s'acharne à lutter contre cette tendance générale qu'ont toutes les choses de retourner à l'état de friche. Limer ses ongles, arracher les poils qui repoussent sans cesse, repeindre ce qui jaunit, enlever les mauvaises herbes, mener une guerre renouvelée aux lierres rampants, à l'invasion implacable des ronces, aspirer la poussière, assouplir sa mémoire. Tu contemplais peut-être parfois, comme le fond d'un puits, la tentation de te laisser gagner par la sauvagerie. Serait-ce abdiquer quelque chose de son humanité ou au contraire, entrer en résistance? Et pourtant, il y a des heures où la nature, même dans ton jardin vivrier, te paraît étrangère. Aux premières heures du jour ou à son déclin, elle se détourne de toi et parle un langage que tu as perdu. Sous sa rosée fraîche, elle te dégoûte vaguement. Tu trouves au-dessous des feuilles un air visqueux, les bords de murs recèlent des formes indistinctes, la moindre racine semble prête à onduler. Dans son indifférence souveraine, elle se déploie comme une fleur géante de sous-bois, répugnante et hors de portée. Tu n'oses pas glisser les mains sur les troncs. Tu as l'impression que ce chat t'évalue de ses yeux jaunes. Puis la journée s'installe. La sauvagerie se tapit dans les ombres. Les courgettes reprennent leur air bonhomme et retranchent leurs tentacules rugueux dans un monde invisible à ton inspection de propriétaire. Le chat cligne des yeux et passe une patte par-dessus son oreille.
Un extrait de votre texte, La hideuse, Reine Bellivier, est un des moments où se rejoint une figure de femme qui part à la fin des années 50 et un monde sauvage. Je pense aussi à une image que vous utilisez à un moment donné pour parler de la conjugalité ou même du mariage, et où c'est un renard comme ça qui est pris au piège et un piège qui est refermé autour de la patte de l'animal. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre cette femme qui s'arrache littéralement à sa maison et quelque chose qu'on appelle aujourd'hui le vivant, qui serait le monde sauvage, le monde animal, ou la terre grattée par la narratrice de Louise Rose, bébé?
Je pense qu'il y a cette intensité-là qui est l'aspect effrayant de cette héroïne, c'est-à-dire c'est sa part sombre, non maîtrisée, qui refuse de se laisser polisser. Et qui lui fait peur à elle aussi, évidemment, qui effraie son entourage et qui lui fait peur à elle et qui s'incarne dans le reflet d'elle-même quand elle se trouve hideuse. Il y a cette idée de la femme sauvage qui maîtrise pas ses cheveux, qui maîtrise pas, que personne ne maîtrise et qui refuse d'être assignée à un rôle. Mais c'est très ambivalent et elle va traîner cette ambivalence tout du long. C'est-à-dire qu'elle s'arrache, mais elle arrache une partie d'elle-même, comme le renard qui se ronge la patte. Elle y laisse quelque chose.
Mais dans ce caractère, en effet, incontrôlable, pas piégeable, pas assignable, donc que ce soit du côté de la fille de, la femme de, la mère de, donc elle s'arrache, oui. Mais il y a la question du désir, c'est que cette chose irrépressible qui l'amène dehors et qui la fait fuir, c'est quand même le désir. Et que une façon de voir les choses positivement, ce serait de le lire comme ça, Reine Bellivier.
Bien sûr, mais c'est ça qui l'anime, évidemment, c'est ce désir-là, sinon elle partirait pas de toute façon. Et elle a très envie d'appartenir au monde de l'autre côté, à celui des hommes qui vont travailler dehors, qui sont au grand air, qui ont le plaisir de voir le fruit de leurs efforts s'incarner dans le jardin, dans des objets, dans des constructions. Elle ne supporte pas ce cantonnement ingrat à l'intérieur, aux tâches répétitives. Voilà, elle a envie du grand dehors, mais ça n'appartient pas aux femmes, cet imaginaire-là. Et ça,
encore moins dans la fin des années 50.
Encore moins dans la fin des années 50, bien sûr. Et ça questionne aussi ce que c'est que d'écrire en tant que femme, je trouve, parce que du coup, on se retrouve à écrire les choses de l'intime. Et Geneviève Brisac en parle dans La Marche du Cavalier. Elle dit que les femmes, finalement, nomment les brumes incertaines, elles réveillent des âmes endormies, etc. Et moi-même, j'ai une ambivalence par rapport à ça. J'ai envie d'aller vers ça, j'ai envie de raconter ces choses de l'intime, ces choses de l'anodin.
Mais vous avez l'impression de continuer.
Et j'ai l'impression en même temps de creuser un sillon qui est celui qui est assigné à l'écriture féminine. Donc il y a cette ambivalence là aussi dans l'écriture. Ces thèmes-là m'intéressent, mais pourquoi j'écris pas une aventure de pirate ? Je sais pas. Voilà.
D'ailleurs, le texte commence en disant ça pourrait être un matin où un garçon a envie de partir à l'aventure, mais ça, ça va, on l'a peut-être déjà suffisamment lu et suffisamment raconté. On écoute un autre extrait de votre texte, Louise Rose, Les projectiles, plutôt à la fin, mais qui serait le début de la fuite de votre personnage bébé. On est au supermarché.
Mon poussin chouine. Maman, encore l'histoire. Maman, encore l'histoire. Maman soupire, capitule. C'est reparti. Mon poussin suit du doigt les mouettes sur les pages. 1, 2, 10, 28, 39, 46, 113. Bébé écoute l'histoire une deuxième fois jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la maman dise « Mon poussin, allez, viens, cette fois on va nager. » Bébé les reconnaît. Elles viennent tous les samedis au supermarché. Mon poussin, la terreur, sait négocier et s'égosille. Le goûter d'abord, le goûter d'abord. D'accord. D'abord le goûter, d'accord. Des gaufrettes, de l'eau goût fraise, une petite compote en gourde. Mon poussin commence par la compote, la vide d'une traite avec un bruit d'évier dégueulasse, aspire toutes les particules de pomme jusqu'à la dernière. Bébé, ça la fascine que les enfants excellent dans l'art des miettes. Elle se demande d'où leur vient cette obsession de ne pas en perdre une, pas une seule, de tout bouffer. Mon poussin s'attaque aux gaufrettes. Mon poussin la bouche pleine de « et moi je, et moi je ». Pas besoin de regarder, bébé devine les miettes au bord du gouffre, la porte des enfers bardée de dents de lait. Elle s'imagine, elle, mère.
Dans votre roman, Louise Rose, bébé n'est pas mère, mais elle a une capacité telle de s'approcher des choses qu'on pourrait presque la sentir... se sentir mère. Il y a quelque chose dans le livre de Reine Bellevier qu'on a assez peu déplié, mais qui est la fuite de la condition de mère. Ça apparaît, mais confusément, dans votre livre Les Projectives, Louise Rose. Est-ce qu'elle fuit aussi, cette narratrice, la possibilité d'être mère ?
Je pense qu'elle elle fuit ça, effectivement. Ça fait, quand elle fuit, ça fait quelques jours ou quelques semaines qu'elle est fiancée, qu'on l'a demandé en fiançailles. Et ses beaux-parents lui mettent la pression à chaque repas du dimanche midi, quand est-ce qu'il lui faut un petit.
Ouais.
Ouais. Et il y a ce truc-là qui plane. Et je pense qu'elle refuse, entre guillemets, ce parcours normal, quoi, d'avoir un boulot, de vivre en couple avec un homme dans un appartement et de se marier et d'avoir de beaux enfants et de vivre heureux. Et je pense qu'elle a pas envie de vivre heureuse de cette manière-là et qu'elle se rend compte qu'il y a plein d'autres manières, mais qu'il faut qu'elle aille reconnecter quelque part avant ça, quoi.
Oui, et d'ailleurs, on la voit dans ce moment de fuite. Il y a plein de moments où elle apparaît étrange dans l'espace public, parce que c'est étrange, cette femme qui s'est barrée, et parce qu'on a comme pas l'habitude, finalement, de voir des femmes seules, sans poussette, sans caddie. Il y a quelque chose de son corps dans l'espace public qui est pas acceptable, pour en revenir à la question inadmissible de la femme qui part. Il y a un très beau passage aussi dans Les Projectiles qui voit arriver les habitudes. Et au début du paragraphe, on ne sait pas que ce sont les habitudes. On a l'impression que c'est des espèces de bestioles. Et elle a la préscience que oui, c'est ça qu'il faut fuir.
Ouais, Elle est hantée quelque part par cette question-là. Je pense qu'elle se rend compte effectivement que les habitudes, c'est les paires de chaussettes roulées en boule, c'est le savon commun qu'on partage, c'est les miettes sur la table. Enfin, c'est plein de micro trucs, mais qui viennent s'accumuler et qui font qu'à un moment, soit elle se jette par la fenêtre, soit elle jette des yaourts et elle se casse et c'est ce qu'elle fait, quoi.
Elle jette plutôt les yaourts.
Ouais, elle jette les yaourts.
Le bouquin continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, on re-retrouve Mathilde Wagmann. Comme chaque mardi, l'heure est venue de faire un peu de place à la littérature jeunesse dans cette émission. Avec vous, Mathilde Wagmann. Rebonjour Mathilde.
Rebonjour Marie.
Merci pour vos belles lectures. Vous nous parlez aujourd'hui d'une série de livres qui peuvent se lire à des tout petits-petits-enfants.
Oui Marie, une série de petits livres de format carré, 12 cm par 12, mettant en scène un personnage récurrent prénommé Crocus. Crocus, c'est un petit serpent vert qui aime faire des bêtises, du bruit, des colères, manger des frites plutôt que des légumes. C'est le héros d'une série dont 6 premiers opus ont paru l'an dernier et dont 3 nouveaux viennent compléter la collection en cette rentrée. Crocus est fâché, Crocus fait du vélo et Crocus est malade. Ils sont signés Sophie Guérive et ont paru aux éditions 2042. Chaque volume s'organise autour d'une série de 12 doubles pages, page de gauche un texte concis, page de droite l'illustration. Crocus est fâché raconte ainsi l'histoire d'une grosse colère de Crocus suite à une grosse bêtise de Crocus. Je vous la lis, elle est courte. Crocus a fait une bêtise, maman a beaucoup crié. Crocus est très fâché contre maman. Il boude très fort. Maman n'aura pas de bisous, maman n'aura pas de câlins. Crocus crie « Je ne t'aime pas, je ne veux plus jamais te voir !» Crocus prépare un baluchon, il va partir pour toujours. Mais d'abord, Crocus fait un petit dodo sur maman. Fin du récit. À l'écoute de cette lecture, vous figurez peut-être l'un de ces albums pour jeunes enfants qui couvrent les rayons jeunesse des supermarchés et mettent en scène des héros tout mimi, tout crétins, aux allures de gentils oursons ou de petits pandas. Mais pas du tout. Les Crocus de Sophie Guérive sont à milieu de cela et procèdent au contraire d'un subtil décalage avec ce genre de littérature, ce par la saveur de la rencontre entre les mots et les dessins. Dans Crocus est fâché, prenez par exemple la première page. Face au texte, Crocus a fait une bêtise, une maison qui ressemble à un visage dont les fenêtres seraient les yeux et la porte la bouche, orifice desquels se déversent des torrents d'eau, une maison qui pleure en somme et nous laisse deviner que Crocus a laissé un robinet ouvert quelque part. Ce qui fait le délice des pages qui suivent, c'est l'attitude de la mère tandis que Crocus fait la tronche. Nous la découvrons, toujours à l'arrière-plan, tour à tour en train de lire un bon bouquin, s'entraîner au bilboquet, faire des tours de monocycle ou souffler des bulles de savon, absolument indifférente à l'attitude renfrognée de son serpent de fils. Lorsqu'après sa longue traversée de rage, Crocus, sur la dernière image, s'effondre enfin d'épuisement sur sa mère, c'est aussi son triomphe à elle que l'on célèbre. Car l'ensemble de la série est en fait l'histoire de ce duo, lui, enfant à l'intensité propre à son âge, disons, elle, épuisée, parfois dépassée par les événements. Ainsi, dans Crocus fait du vélo, l'histoire de leur virée au parc pour essayer la nouvelle bicyclette du jeune serpent, on la voit devoir batailler ferme pour convaincre Crocus de mettre un casque, puis après qu'il a envoyé valser ce dernier, supporter ses larmes et hurlements, le pousser, lui intimer de tenir le guidon lorsqu'il se dirige vers l'arbre dans lequel il finit par s'enfoncer. J'aimerais pouvoir vous décrire l'air lassé, revenu de tout, de la mère, lorsqu'elle indique à son fils que pour que le vélo avance, il faut pédaler. Ce quelque chose dans le regard d'une fatigue au-delà de la fatigue que tous les parents de jeunes enfants connaissent. La finesse et la drôlerie du tout suscitent d'autant plus d'admiration qu'ils sont réalisés avec une économie de moyens graphiques remarquable, absence de décor, minimalisme du trait. Sophie Guérive a aussi le génie des chutes. Crocus et l'école, paru l'an dernier, raconte ainsi l'histoire de Crocus qui, un matin, ne veut pas aller à l'école. Sa mère essaie de le convaincre avant de renoncer, se coucher à côté de son fils. La dernière image nous montrant la maîtresse, une charmante jument, elle aussi au fond de son lit, car elle non plus ne veut pas y aller. Et ça se finit comme ça, pas de solution, pas de remède, pas de morale. Ici, juste cet ensemble de galères communes, qu'on appelle l'existence ou la parentalité, et qui n'empêche pas des moments de joie. Ça n'a l'air de rien, c'est tout à fait subversif en réalité.
Oui, absolument. Ce Crocus est en fait l'une des dimensions d'une œuvre plus protéiforme.
Oui, Crocus n'est en réalité que l'une des tentacules d'un univers fictionnel rhizomatique. Le personnage a fait sa première apparition dans une série de bandes dessinées adultes qui s'appelait Tulip, suite de Sénette mettant en scène le serpent et deux comparses, un ours brun prénommé Tulip et une oiselle bleue, Violette, que l'on voit deviser sur l'existence et son non-sens à la façon des Peanuts de Schultz ou des personnages de Ma Mafalda. À cette première série, Sophie Guéry va imaginer une sorte de prolongement, ou plutôt de prequel, comme on dirait en bon français, mettant en scène les mêmes personnages enfants, qui s'intitule Le Club des Amis et dont le cinquième opus paraîtra en octobre. L'ensemble de cet univers est à découvrir ces jours-ci, dans une exposition que le festival Gribouillis consacre à l'œuvre de l'autrice à l'espace Saint-Rémy de Bordeaux jusqu'au 28 septembre. Elle se tient dans le cadre de ce très beau festival Gribouillis, donc à Bordeaux. Ensemble de manifestations gratuites, parmi lesquelles des expositions, un grand salon du livre du 12 au 14 septembre, des rencontres, des concerts, un festival dédié à l'art du dessin sous toutes ses formes, qui crée des ponts entre les univers de l'illustration, des albums enfants et de la BD alternative, ce à quoi parvient admirablement justement l'œuvre de Sophie Guérive, grand pont suspendu entre ces disciplines à elle seule. On ne saurait trop vous recommander de l'emprunter, et ce quel que soit votre âge.
Merci beaucoup Mathilde Wagman. Les références de ces crocus, avec un scoop qui est que je vis en fait réellement avec crocus à la maison, enfin je pense que je vis avec crocus Mathilde, et les références du festival sur la page de votre chronique Lecture Jeunesse. À la semaine prochaine. Je connais Crocus. À cette heure-ci, le Book Club cherche de la musique dans les textes et on en a trouvé dans l'un des romans au programme de notre Book Club. C'est le vôtre, Reine Bélivier, la Hideuse. Il y en a plein dans les projectiles aussi. On vous invite à jouer avec nous pour nous envoyer toutes vos pages musicales des projectiles de Louise Rose. Les chambres de la maison de l'autre donnent sur une place étouffée de marronniers. Au printemps, leurs chandelles blanches entrent presque par les fenêtres du premier. C'est par cette place que tu as dû arriver. C'est le plus commode quand on vient comme toi du quartier Saint-Elme en contournant largement l'usine par les champs pour éviter le centre-ville. Tu lèves peut-être les yeux vers la fenêtre ouverte. Une demoiselle sur une balançoire. Vers les ramures vertes rayées de noir où se mêlent le roucoulement des pigeons et une chanson à la radio. Se balançait à la fête, un dimanche. Tu ne t'attardes pas, contourne l'angle de la place, elle était belle et l'on pouvait voir, et te retrouve dans l'ombre froide de la rue, ses jambes blanches sous son jupon noir.
Voulez-vous vous asseoir ? Descendez, descendez, c'est assez pour ce soir. Si vous restez debout, vous allez vous casser le cou. Mais là, demoiselle sur la balançoire riait, riait et montait de plus belle. Elle était belle et l'on pouvait croire qu'elle s'envolait pour toujours dans le ciel. Mais c'était défendu, elle est redescendue. Quand elle est descendue, moi j'étais toute
Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues parler de votre roman Reine Bélivier, la Hideuse, apparue aux éditions Bourgois. C'est grâce à vous qu'on écoute Yves Montand. Les projectiles Louise Rose, apparue aux éditions POL. L'une et l'autre, vous courez les librairies, les festivals et les rencontres. On mettra quelques dates sur le site internet du Book Club. Au son aujourd'hui, c'était Mineta Diawara. À la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Cyril Marchand, Garance Roubieux, Jeanne Aléos et Alexandra Laibegovic qui animent la grande conversation du Book Club sur le compte Instagram.